C'est la poulie.
Salut, salut.
Revue de presse hebdomadaire sur Radio Primitive.
Et au programme aujourd'hui, on va vous parler relance du nucléaire.
Moi, je vais vous parler du coût de la répression des écologistes. Et puis, de la reconnaissance faciale utilisée en toute illégalité en France.
Et puis, on peut peut-être commencer par un petit agenda.
Allô ?
Qu'est-ce cela ?
C'est le calendrier des télécoms.
Alors, dans l'agenda de la poulie, vendredi, le 5 avril, à 19h au temps des cerises, il y a une projection d'un documentaire sur les méga-bassines, histoire secrète d'un mensonge d'État. Donc, c'est animé et organisé par le collectif de la Luciole. Et. Bassine No Merci 0851, voilà. Et il y aura un membre qui viendra des Deux-Sèvres, un membre de Bassine No Merci qui viendra animer aussi le débat suite à la projection. Donc vendredi 5 avril, 19h au temps des cerises. Pour rappel, c'est rue Marie-Dominique Mingot sur le parking de l'Hippodrome. Et au mois d'avril, du 17 au 23, dans le coin de Bure, là-bas, des gens qui luttent contre la poubelle nucléaire, on en parle souvent, organisent une semaine anti-nucléaire sur des bases anti-autoritaires et le programme est sorti. Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vous pouvez retrouver tout le détail sur bureburbure.info. Plein de choses, des moments, des balades de découverte naturaliste, des débats, des conférences, des conférences gesticulées, et puis des moments plus festifs en soirée. Voilà, des projections également. Allez voir ça. Et ben, on attaque avec un peu de musique.
Tout de suite dans la poulie, on va se parler un peu du coût de la répression face aux opposants pour l'autoroute A69, contre l'autoroute A69. Donc voilà, 2,76 millions d'euros, le coût de la répression des opposants à la 69. Gaspard Dalens, Justine Carrette et Emmanuel Quévenot et Stéphane Jungers pour les infographies. C'est un article de Reporter. Un pognon de dingue. Ainsi pourrait-on qualifier l'argent dépensé par les pouvoirs publics pour réprimer les opposants au projet de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Depuis le début des travaux, en mars 2023, le gouvernement a déployé un dispositif policier colossal pour faire face à la résistance sur le terrain, aux occupations d'arbres et aux multiples manifestations des militants. Selon les estimations, non exhaustives, de Reporters, l'État aurait déboursé plus de 1,5 million d'euros pour briser cette contestation, et ce, sans compter le salaire des milliers de gendarmes mobilisés. Et en l'incluant, la somme double, au moins 2,76 millions d'euros, qui aurait donc été engloutie en un an par cette opération de maintien de l'ordre, orchestrée à l'aide de blindés, drones, pelotons d'intervention spécialisés et milliers de grenades tirées. À titre de comparaison, ce montant correspond aux dépenses, au montant de, correspond, correspond aux dépenses du plan Tarn Sécurité Santé pour lutter contre les déserts médicaux ou à l'équivalence des subventions agricoles du département. Ironie du sort, c'est aussi deux fois plus que le budget consacré aux mobilités douces dans le département. Voilà, donc 2,76 millions pour le projet de la 69, 5 millions, je crois, c'était pour la manifestation à Sainte-Soline. Enfin voilà, ça nous coûte vraiment un pognon de dingue, là, quand il s'agit de réprimer, de matraquer, de grenader et de sortir des gros véhicules, et il n'y a plus de problème dessous. Bon, curieusement. Et je propose qu'on écoute un peu de musique.
Lights. Et la chanson d'avant, j'ai oublié de vous le dire, c'était New Buildings du groupe Spectre. Et maintenant, je vais vous lire un extrait d'une brochure qui a été éditée sur burburbur.info encore. Ça s'appelle Relance du nucléaire, contexte, attendez, Relance du nucléaire, éléments de contexte sur les derniers mois. Voilà, ça a été édité au mois de mars. Et je vais vous lire un. C'est toute une brochure, donc je vous invite à aller là. La des mesures permettant la relance en France. En octobre 2021, Macron a dévoilé sa volonté de construire de nouveaux réacteurs nucléaires à travers France 2030. Un plan empreint d'impérialisme sournois et d'un technosolutionnisme décomplexé. Ce sera de nouveau confirmé et détaillé en février 2022 dans le discours de Belfort, où la construction de six nouveaux EPR a été précisée, passant ensuite à 14 EPR en janvier 2024, ainsi que l'investissement dans des mini-réacteurs SMR, les Small Modular Reactors. Comme pour chaque projet de grande ampleur, un énième débat public fantoche a été organisé à l'échelle nationale, où la Commission nationale du débat public, la CNDP, dont le slogan est « Ma parole a du pouvoir », fait semblant de prendre en considération votre opinion face à une nuisance qui se fera dans tous les cas. Celui-ci était prévu du 27 octobre 2022 au 27 février 2023 dans plusieurs villes pour débattre du programme proposé par EDF de 6 réacteurs nucléaires, EPR2, dont les deux premiers seraient situés à Penly en Normandie. Dès le 2 novembre 2022, comme pour rire au nez de l'opposition, le gouvernement présentait son projet de loi d'accélération du nucléaire. 6 jours après, le premier débat public à Paris était perturbé par des militants du collectif Piscine Nucléaire Stop contre le stockage des déchets nucléaires de à La Hague et par des opposants au projet Cigéo à Bure. Le 24 janvier, un peu plus d'un mois avant la fin de la concertation, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de l'exécutif pour accélérer les procédures administratives en vue de nouveaux réacteurs. En réponse, le réseau Sortir Nucléaire et Greenpeace se sont scandalisés du manque de démocratie dans un débat organisé par l'État sur le nucléaire et ont cessé d'y participer les séances suivantes. Tandis que France Nature Environnement, Global Chance et Negawatt y sont restés, malgré un scepticisme marqué quant à l'utilité d'être présent. Le débat a ensuite été perturbé à Lille par des opposants autonomes sans aucune référence à une organisation connue selon la CNDP, et à Lyon, où les ONG présentes auraient demandé avec force aux manifestants de cesser leur perturbation de la réunion. Le représentant de Negawatt leur déclarant par exemple « Vous êtes les idiots utiles du président de la République et du gouvernement ». Suite aux perturbations de Lille et Lyon, les réunions publiques suivantes ont été annulées, dont celle de Tours, où un rassemblement antinucléaire était notamment organisé. Avec ces annulations, la CNDP s'est elle-même sabordée, parce qu'humiliée par un gouvernement qui légifère au même moment. Dans cette situation, même les plus adeptes du débat public peuvent se rendre compte qu'il ne s'agit là que d'un vernis et qu'ils sont de ce fait les idiots utiles du gouvernement. Et cerise sur le gâteau, avant même que la CNDP ne rende son rapport, les députés ont voté le projet de loi à l'Assemblée nationale le 21 mars 2023 et en deuxième instance le 22 juin en pleine réforme des retraites. Parmi les mesures votées dans ce texte de loi, simplification des procédures administratives concernant la construction de nouvelles installations nucléaires, la prolongation de durée de vie des réacteurs existants au-delà de 50 ans, suppression de l'objectif de réduction à 50% du nucléaire dans le mix électrique qui avait été fixé sous le quinquennat Hollande, doublement des peines d'emprisonnement pour intrusion dans un site nucléaire, enfin suppression de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. Et le transfert de ses experts, notamment à l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Ce qui, après une opposition parlementaire et syndicale corporative, a été retiré du projet de loi, pour être finalement adopté en commission sénatoriale quelques mois après. En effet, le 8 février 2024, le Sénat a adopté les articles du projet de loi visant à fusionner l'ASN et l'IRSN en une seule et même instance. L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'ASNR. À l'heure actuelle, le projet de fusion est encore en discussion et sera rediscuté par les députés le 11 mars pour l'anniversaire de Fukushima. En toile de fond de cette réorganisation se joue un conflit entre EDF et l'IRSN, le premier jugeant le second un peu trop indépendant. Bien qu'étant une institution pro-nucléaire faisant partie de l'industrie nucléaire, l'IRSN est en fait une épine dans le pied de la relance qui pourrait s'accélérer dans les prochains temps. Un premier projet de réforme de l'IRSN avait déjà été envisagé à la fin des années 2000, lorsque Sarkozy prévoyait de relancer la construction de réacteurs nucléaires. Il y aurait toujours eu des débats houleux entre les experts qui effectuent les contrôles et les opérateurs, notamment EDF. À EDF, les cadres pensent que l'IRSN pousserait l'ASN à prendre des décisions plus sévères envers EDF. Par exemple, en 2017, l'ASN demande à EDF d'arrêter les 4 réacteurs de la centrale du Tricastin pendant plusieurs jours afin de consolider une partie de la digue d'un canal situé en amont du site. EDF conteste. Pour eux, les travaux peuvent être faits sans stopper la production. Un jour d'arrêt de réacteur étant un manque à gagner de plus d'1 million d'euros. Cette réforme a longtemps été contestée par les salariés de l'IRSN et par des militants et organisations anti-nucléaires réformistes qui projettent une maintenance et une relance du nucléaire dans de bonnes conditions. La fusion pourrait ainsi mener à une perte en indépendance de l'IRSN et à une dégradation de la sûreté nucléaire, et ce, peu avant la mise en fonction de l'EPR de Flamanville et la construction de nouveaux EPR. Encore en juin 2017, l'IRSN avait émis un avis critique sur le couvercle de l'EPR de Flamanville. Fin mars 2024, l'État et EDF prévoyaient la mise en fonctionnement de l'EPR de Flamanville, avec la première étape de chargement du combustible d'uranium dans le réacteur, avant la production des premiers mégawatts à la mi-2024. En réponse, l'ASN alerte sur un calendrier toujours très tendu et sans aucune marge pour un démarrage de l'EPR de Flamanville début avril. La montée en puissance se fera par palier, avec nécessité de l'autorisation de l'ASN pour passer au palier suivant. On sait qu'une manifestation anti-nucléaire est d'ores et déjà organisée à Caen le 23 mars 2024. Concernant les prochains EPR, la première coulée de béton est prévue pour l'horizon 2035-2037, si leur plan se passe comme prévu. En parallèle, le secteur nucléaire lance le recrutement massif de 100 000 salariés sur 10 ans, soit 10 000 par an, et en particulier dans les secteurs de la forge-fonderie, le génie civil et la chaudronnerie. Ceux qui, majoritaires, rejoignent la sous-traitance des centrales assurent les tâches qui comportent le plus de risques et les travaux les plus exposés. Et ils reçoivent 80% des doses annuelles de radioactivité, contre 20% pour les agents d'EDF. Pour amadouer plus de chômeurs et de chômeuses à travailler pour l'industrie nucléaire, France Travail enchaîne l'organisation de salons du métier du nucléaire, principalement à proximité des centrales et des projets nucléaires. On pense notamment au salon de recrutement du 6 février 2024 à Bure, où une centaine de demandeurs d'emploi étaient venus, peut-être par peur d'être irradiés par France Travail, ainsi que 500 élèves des collèges environnants, afin de leur bourrer le crâne de propagande à l'emploi dès la préadolescence. Des nouvelles formations ouvrent à gauche et à droite dans les écoles, les universités et les CFA, que ce soit pour former des ingénieurs, des techniciens ou des ouvriers. Et pour convaincre plus d'étudiants et de lycéens de rejoindre cette filière, l'État a même lancé des bourses de 600 euros mensuels attribuées par l'Université des métiers du nucléaire. C'est dire qu'ils recrutent dans tant les conditions de travail laissent à désirer. En décembre 2022, 7 000 offres d'emploi non pourvues étaient recensées par Pôle emploi, tandis qu'une centaine de soudeurs et de tuyauteurs états-uniens et canadiens ont été appelés en renfort pour la réparation des soudures corrodées en France. Voilà, ça c'était un des chapitres. Je vous rappelle le titre de la brochure en question, Relance du nucléaire, éléments de contexte sur les derniers mois. Je vous invite à aller lire la suite sur le site burburbur.info. Et tout de suite, un peu de musique. On écoutait, vous avez reconnu, The Selecteur avec la chanson Too Much Pressure.
Et voilà, on va se lire des extraits d'un article de contre-attaque.net. La reconnaissance faciale utilisée en France en toute illégalité depuis des années. Les derniers procès à l'encontre de manifestants de Sainte-Soline au tribunal de Niort, ce jeudi 28 mars, ont été l'occasion pour les avocats de la Défense, dont Raphaël Kempf et Pierre Hurier, de dénoncer l'usage illégal et totalement obscur de logiciels de reconnaissance faciale par la police dans les enquêtes judiciaires, aussi dérisoires soient-elles. Trois des sept prévenus qui comparaissaient à la barre jeudi dernier avaient été identifiés par un logiciel inconnu sur la base de photos prises lors de la manifestation de Sainte-Soline et comparées aux données contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Ce fichier rassemble les données récoltées, non seulement suite à une condamnation, mais toutes vos données vous concernant si votre nom est apparu dans une procédure judiciaire, que ce soit en tant que témoin ou bien lors d'une garde à vue. Alimenté ainsi par les relevés signalétiques effectués en garde à vue, ce fichier peut comporter les photos de vous qui ont été prises. À l'approche des JO de Paris, le gouvernement a tenté de légaliser a posteriori cet usage en faisant adopter une loi au Parlement pour une expérimentation de ce logiciel lors des Jeux jusqu'au 31 mai 2025. Une soi-disant expérimentation alors que le logiciel est installé depuis quasiment 10 ans. La Macronie maîtrise l'intox à la perfection. Face au risque d'atteinte à la vie privée, les députés ont néanmoins interdit le recours à la reconnaissance faciale qui permet d'identifier une personne sur des images à partir des traits du visage. Cette limitation n'empêche apparemment en rien les services de police de continuer d'utiliser la reconnaissance faciale dans la plus grande opacité, sans cadre légal précis ni information sur le logiciel utilisé, la société qui le commercialise et encore moins sur les éventuelles études réalisées sur l'efficacité et les risques discriminatoires qu'il comporte. Le ministère de l'Intérieur dissimule ces informations, y compris devant la Commission nationale de l'informatique et liberté. Pourtant, ce jeudi, devant le tribunal de Niort, l'usage d'un tel logiciel est assumé publiquement devant les journalistes et les avocats présents et présentes à l'audience. Les avocats et avocates indignés se sont saisis de cette illégalité accablante dont se rendaient coupables les services de police et le parquet pour chercher à annuler la procédure. C'est ce qu'on appelle des conclusions de nullité. Ces conclusions, devant un tribunal indépendant et impartial, auraient dû être un motif d'annulation directe de toutes les procédures concernées. Mais la complaisance des juges et de la procureure étant totale, les deux refuseront de reconnaître cette procédure illégale et refuseront d'admettre la moindre nullité de la procédure. Tous les prévenus seront reconnus coupables à la fin de cette journée d'audience. Voilà, ils ont tous fait appel et bon, en se basant, j'imagine, sur cette condition de nullité. Et donc voilà, on leur souhaite bonne chance en appel. Et voilà, on voit que la police ne respecte pas les lois. Hein. Allez.
Je crois que c'est l'heure de se quitter. J'ai juste une petite info pour une fois, parce que il paraît que la police est souvent un peu glauque. Alors, une bonne nouvelle, le réseau Mutu accueille son 19e site. C'est un site normand, ça s'appelle trognon.info. Toujours sur un mode collaboratif. Et voilà, ça se veut anticapitaliste, anti-autoritaire. Et voilà, trognon.info. Et on se quitte en musique. À la semaine prochaine. Salut, salut.
À la semaine prochaine.